Le marché vide-grenier du Pont des Français attire toujours les amateurs de bonnes affaires à un rendez-vous important, notamment pour les familles en difficulté. Reportage dans un instant. Wild Food Polynésie Française, c'est le nom d'un nouveau documentaire proposé par Canal+. Ils mettent en chef un chef calédonien. Ils mettent en scène un chef calédonien, David Cano, à la rencontre des spécialités culinaires du Fénois. Aux États-Unis, une tempête polaire s'abat depuis hier sur les deux tiers du pays. Les températures frôlent les moins 40 degrés. Au moins 160 millions d'Américains sont appelés à rester chez eux. L'auteur présumé du meurtre d'une jeune mère de famille de 23 ans à Nice, interpellé, deux mandats, l'un européen, l'autre international, avaient été émis contre cet individu âgé de 45 ans. Le sport, le rugby et le Stade toulousain qui confirme sa supériorité dans le championnat de France. Toulouse qui l'a emporté sur son dauphin, la section paloise, 59 à 22. Et puis le football, et Marseille qui s'impose sur Lens 3-1 et prive les Sangléors de la première place du classement général, laissant le Paris Saint-Germain seul aux commandes de la Ligue 1. Bonjour, très bon dimanche et soyez les bienvenus dans ce journal. Au chapitre politique, l'Union calédonienne est réunie, vous le savez, en congrès depuis vendredi à Marais. Les travaux qui se sont achevés tard hier soir ont repris ce matin après la messe dominicale. Les participants exposent les résultats des travaux menés en atelier hier. Ce congrès sera marqué par le renouvellement des instances politiques, renouvellement qui devrait se dérouler dans le courant de l'après-midi. Les amateurs de bonnes affaires avaient rendez-vous ce dimanche pour le traditionnel marché vide-grenier du Pont des Français. Et c'est ce qui fait la une de l'actualité. Un événement qui attire toujours un large public, d'autant plus que c'est le début de l'année. Michael Juneski.
Oui, comme toujours, des stands variés étaient à retrouver sur place ce matin. Plantes, fruits et légumes, outillages, linge, jouets et bien d'autres articles d'occasion encore. Ça peut aider les familles en difficulté économique, que ce soit celles qui vendent des produits, autant que celles qui cherchent à acheter à petit prix. Un coup de pouce également après les fêtes de fin d'année 2025 et déjà dans l'optique de préparer la rentrée scolaire 2026.
On vient tous les dimanches, c'est sorti, c'est intéressant.
On trouve beaucoup de choses, on peut se meubler, mais enfin, on trouve même à manger.
On a trouvé des fruits qu'on ne connaissait pas.
Voilà. J'ai trouvé mon petit bonnet, mon petit radio. Oui, ça fait plaisir.
Tous les dimanches, ça fait des années que je suis là. C'est pour un gain de pain, parce que la fin du mois, c'est lent. Je vends un peu de légumes, tous mes potagers du champ. Je travaille et l'après-midi, je vais dans mon champ. J'ai mes clients, ils viennent plus vers moi parce que moi, je fais moins cher que dans le magasin.
Nous, on vient spécialement pour les deux dames qui sont là, qui vendent des sirops, c'est excellent. Puis voilà, le linge pour le petit.
Votre prénom, c'est comment ?
C'est Marcel, antillaise, 30 ans que je suis là au même endroit. Je fais des sirops avec les fruits du pays, des confitures, des achats, des bonbons, coco, gingembre. J'ai un peu d'épices aussi, parce que c'est fait avec amour. J'ai des clients fidèles qui viennent régulièrement. En plus, j'ai gardé tout au même prix qu'avant, j'ai pas augmenté.
Bah, on vient se débarrasser surtout du surplus, quoi, hein, qui dort à la maison. Du coup, bah, voilà, ça part bien depuis ce matin. Bon, faut dire qu'on a des prix très bas. Il y a des gens modestes, des budgets modestes qui cherchent des trucs pas chers, donc voilà. On contente tout le monde, quoi.
Ah, on a pu trouver quand même ce qu'on voulait avec les filles.
Oui. Balade en famille.
Balade en famille, voilà. Comme on vient du Nord, du coup, voilà.
Ah oui, vous venez d'où, vous ?
Ah, de Conné.
Ça prépare déjà la rentrée.
Moi, j'ai trouvé un dictionnaire.
Et toi, jeune homme, t'as trouvé quoi un petit peu ?
Moi, j'ai trouvé des stylos.
Tu rentres en quelle classe, toi ?
CM2.
CM2, il faut beaucoup de stylos, va falloir bien travailler.
Hein. Pourquoi elle donne pas stylos, non ?
Le marché vide-grenier du Pont des Français qui a donc lieu tous les dimanches, vous le savez, sur le parking du drive-in.
Et si la tradition nourrissait encore le futur ? C'est la question que s'est posée le chef David Cano lorsqu'il a quitté la Calédonie pour la Polynésie française. Avec une équipe de tournage, il a rencontré les populations locales, goûté leurs spécialités. 7 mois plus tard, le film documentaire Wild Food Polynésie française sort sur Canal+. Un voyage culinaire filmé de A à Z pendant 2 mois par les équipes du réalisateur Stéphane Ducanda, qui ont rencontré les habitants du Fénois, des Marquises, Tahiti. Objectif, apprendre ou réapprendre l'acte de manger, aller à la rencontre des populations et des savoirs traditionnels. Écoutez Stéphane Ducanda expliquer sa démarche.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'acte de manger. Ça m'a interpellé parce que je trouvais que cet acte de manger-là, il était confisqué, transformé, parce que c'est un temps qui, pour la société de consommation, qui est trop long. parce que ce temps-là, c'est du temps perdu qui doit être utilisé pour travailler, pour faire de l'argent et des fois pour aller dans des usines pour faire de la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on a inventé les fast-food, les micro-ondes et qu'on doit manger très vite sur le bout du pouce. Alors qu'à l'origine, l'acte de manger, c'est un acte vital et pouvoir se nourrir dans les temps anciens, il fallait vraiment être connecté à son environnement, à soi, à sa terre, avoir les pieds plantés, savoir comment l'animal qu'on chassait vivait, préserver sa ressource. Et donc je trouve que moi, dans l'acte de manger, il y a tout un pan de notre civilisation qui est étouffé et qui fait que, je pense, il y a des névroses qui s'installent chez le citadin parce que tout ça, notre côté animal, ne s'exprime pas.
Acteur principal du documentaire, un cuisinier calédonien, David Cano, chef du restaurant au Petit Café à Nouméa. Il avait déjà participé à la réalisation d'un épisode de Wild Food consacré à la Nouvelle-Calédonie. Cette fois, le Calédonien découvre de nouvelles saveurs et découvre la culture polynésienne à travers la nourriture.
C'est ce qui est intéressant de constater, c'est la conscience de ce qu'on met dans son corps et les liens qu'on lie autour d'un repas. C'est vraiment ce que moi j'ai retenu et c'est un peu pour ça que je fais ce métier-là. Je fais un métier d'artisan, je suis passionné par ce que je fais, mais aussi j'aime faire plaisir. Et ce que j'aime bien dans ce genre d'aventure, c'est de comprendre à quel point c'est important de manger ensemble, de partager et de transmettre.
Et le documentaire Wild Food Polynésie française est déjà disponible sur Canal+. Celui consacré à la Calédonie y est également. Et dans quelques mois, on découvrira les aventures du chef au Vanuatu. L'actualité dans la région Pacifique. En Australie, les caprices de la météo se poursuivent avec un cyclone au nord-ouest de l'île continent et une vague de chaleur au sud-est. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Cette nouvelle vague de chaleur a déjà eu des conséquences dramatiques dans le Victoria, où un important incendie de forêt menace plusieurs localités à vocation pastorale. Hier, la canicule a forcé une réorganisation de certaines rencontres des internationaux d'Australie de tennis et tel sera probablement encore le cas aujourd'hui. Au nord-ouest du continent, pendant ce temps, le cyclone Luana a touché terre en début de nuit dernière entre Biggles Bay et Cap Lévesque, soit environ 2200 km au nord de Perth, capitale de l'Australie occidentale. Le système de deuxième catégorie sur une échelle de 5 générait alors des vents moyens de 100 km/h, mais de très abondantes chutes de pluie de l'ordre de 100 à 200 mm. Le cyclone, qui est désormais en voie de comblement, est ensuite passé au sud-ouest de la ville de Derby, dont les 3300 habitants ont été invités à ne pas s'aventurer au dehors la nuit dernière. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi et pratiquement 9 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. Juste après la pub, on retrouve l'actualité dans le reste du monde, mais aussi en métropole.
Et Tantine, on est en janvier, tu peux enfin refaire tes lunettes. Chez Optique Bellevie, ils testent ta vue gratuitement et sans rendez-vous. Et en plus, t'auras tes progressives en 3 jours max.
Allez, direction Bellevie.
Optique Bellevie, toutes vos lunettes en 3 jours.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et direction l'Iran, où la mollahs populaire contre le régime des mollahs se poursuit. Depuis le début de cette contestation, certains plaident, vous le savez, pour une intervention extérieure. C'est notamment l'avis de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, actuellement en exil. Le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Bruno Fouque, a pu s'entretenir avec lui la semaine dernière. Écoutez.
La population résiste comme elle peut, mais la répression est telle qu'il est difficile pour la population de sortir quasiment sans armes face à un régime qui utilise autant de violences armées et qui tire directement sur la foule. Donc, Pahlavi, lui, pense qu'il faut une opération militaire pour déstabiliser le régime et que seule les citoyens ou le peuple iranien n'arrivera pas à faire tomber le régime. Donc pour lui, l'opération militaire est indispensable. Et puis un élément absolument essentiel, c'est d'établir l'Internet pour que les communications puissent continuer d'exister entre le peuple iranien et puis le reste du monde.
Bruno Fouque, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, invité ce matin d'Europe 1 Week-end. Et puisque l'on parle de cette situation en Iran, sachez justement que l'accès à Internet doit être rétabli dans les heures qui viennent, conformément à l'avis donné hier par le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien. Aux États-Unis, une tempête polaire s'abat depuis hier sur les deux tiers du pays. Les températures frôlent les moins 40 degrés, des chutes de neige, des accumulations de glace sont attendues jusqu'en début de semaine prochaine. Au moins 160 millions d'Américains sont appelés à rester chez eux. Quelle chance! Certains météorologues estiment que ces prochains jours d'hiver pourraient être les pires qu'ait connu le pays depuis 40 ans. Léa Legault pour Europe 1.
C'est une perturbation du vortex polaire qui provoque cette tempête. Des masses d'air arctique s'échappent du pôle Nord vers le continent américain et rencontrent l'humidité douce du golfe du Mexique, ce qui crée un cocktail explosif de la neige au Nord, du verglas au Sud et des chutes de température importantes. L'état d'urgence a été déclaré dans 18 États, de l'Oklahoma à la Pennsylvanie, en passant par le Kentucky. Les autorités locales appellent les Américains à rester chez eux et à stocker nourriture et médicaments, comme le maire de New York.
J'encourage les New-Yorkais à rester en sécurité ce week-end. Si vous avez besoin de faire des courses, aujourd'hui est le dernier jour pour le faire. Une fois que la neige commencera à tomber, tous les New-Yorkais sont invités à rester chez eux.
Conséquence, les rayons des supermarchés sont dévalisés. Clinton, qui vit au Texas, a tout prévu.
Cette fois, j'ai un générateur et je suis prêt. J'ai des réserves, des provisions, tout ce qu'il faut. Je suis préparé, alors je reste à la maison.
La tempête polaire pourrait s'étendre jusqu'en début de semaine. Certains États ont d'ores et déjà annoncé la fermeture des écoles lundi.
Alors, à Legault du service international d'Europe, une tempête également en métropole, tempête Ingrid qui a engendré des vents violents et de fortes pluies en Bretagne ces derniers jours. Une tempête qui a fait des dégâts dans la ville du Conquet. Jean-Luc Milan est le maire de la ville.
C'était la fin du monde pratiquement, tellement les vagues étaient hautes, les bateaux se baladaient au-dessus des flots, et les flots arrivaient jusqu'aux bâtiments qui sont sur le port. On a vu rarement une tempête aussi dévastatrice dans le port. Et on a aussi des 4 bateaux de pêche qui ont été bien abîmés, qui seront donc arrêtés pour quelques temps. On a aussi des bateaux plaisants qui sont partis sur la falaise. On a un port qui est très très mal protégé. Je suis là depuis plus de 40 ans, il y a 40 ans qu'on en parle déjà. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu la bonne solution. Bon, maintenant, on parle de mettre un abri pour les bateaux derrière la deuxième digue. Mais je pense qu'il y a urgence, on ne va pas rester attendre trop longtemps. Parce que là, c'est pas possible. On a quand même beaucoup d'emplois qui dépendent de la pêche sur le Conquet. Vu les éléments qui sont de plus en plus forts, on arrive à des catastrophes.
Jean-Luc Milan, le maire du Conquet, après le passage de la tempête Ingrid. En métropole encore, l'auteur présumé du meurtre d'une jeune mère de famille de 23 ans, tuée de plusieurs balles mercredi dans sa voiture en plein Nice, a été interpellé. Deux mandats, l'un européen, l'autre international, avaient été émis contre cet individu âgé de 45 ans, né au Portugal et d'origine capverdienne. Les autorités craignaient sa fuite à l'étranger, mais c'est à quelques kilomètres des lieux du drame qu'il a finalement été retrouvé dans la ville de Grasse. Frédéric Michel pour Europe 1.
La BRI, le RAID et la police judiciaire de Nice ont procédé à son interpellation sans que l'homme ne résiste. Il a été appréhendé dans un quartier calme sur les hauteurs de Grasse. Jean-Luc Bragato, délégué à Alliance Police Nationale dans les Alpes-Maritimes.
L'objectif principal a été interpellé. Deux autres individus qui ont été interpellés, qui auraient un lien avec l'hébergement de l'auteur présumé. Arriver à mener cette enquête aussi rapidement, c'était un grand soulagement. C'est une grande fierté de l'ensemble des collègues sur le département.
Car depuis mercredi soir, toutes les polices étaient à sa recherche. L'ancien compagnon de la belle-mère de la jeune femme tuée est suspecté d'avoir tiré à 10 reprises à bout portant sur Elisabeth, ne lui laissant aucune chance. Pour protéger sa fillette de 7 mois, la malheureuse a plongé sur elle. L'homme de 45 ans aurait-il volontairement ciblé cette jeune maman ou est-ce le fils de son ancienne compagne qui était visé? C'est l'une des inconnues de ce drame. À l'issue de 24 heures d'interrogatoire, il sera présenté demain en fin de journée à un juge d'instruction.
Il est à midi et quart sur Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause dans un instant. L'actualité sportive.
Bonne année avec Canal+. Et si 2026 vous offrait toutes les chaînes Canal+ à tarif canon pendant un an, en janvier, profitez de l'offre exceptionnelle à 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. À vous le cinéma ultra récent, F1, le film, Mission Impossible, The Final Reckoning ou encore les nouvelles saisons de Loup-Garou et BRI. Retrouvez aussi le meilleur du sport avec l'UEFA Champions League et 100% du top 14. Tout ça, c'est sur Canal+ à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. Faites-vous plaisir. Offre valable jusqu'au 31 janvier pour tout nouvel abonnement de 12 mois à Sélection Plus. Moins en cours offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et on va parler sport avec à la une du rugby à la 15e journée du top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Allez, j'avais fait une passe de maçon pour la virgule. Il y avait des chocs à tous les étages pour le retour des clubs sur les pelouses du championnat de France Élite après la Champions Cup. Et en point d'orgue, le Stade Toulousain qui a confirmé son leadership sur le top 14, Michael Juneski.
Oui, Toulouse taille patron contre son premier poursuivant dans le tableau, la section paloise. Les Toulousains l'ont largement emporté. 59 à 22, 9 essais à la clé. Un festival à un moment important alors que plusieurs internationaux vont prendre la direction de Marcoussi pour le début du tournoi destination avec le 15 de France. Les Toulousains comptent désormais 6 points de plus que leurs adversaires du jour au championnat de France. Un confort non négligeable avant la série de matchs doublons. Toujours dans le haut du classement ce dimanche, notez que le Stade français l'a emporté face à l'UBB 33 à 28. Les Parisiens sont 3e, les Girondins au pied du podium. Castres de son côté a mis fin à l'invincibilité à domicile de Bayonne. Une victoire des Castrés sur les terres de l'aviron bayonnais 13 à 10. On retiendra encore cette victoire sur le fil du Racing 92 sur Lyon, 35 à 34. Et puis en bas de tableau, l'avant-dernier, Perpignan, a dominé la Lanterne Rouge, Montauban, 31 à 8. Le match entre Toulon, 5e, et Montpellier, 6e, a dû être reporté en raison des mauvaises conditions météo. Il se jouera demain matin, juste avant la dernière affiche de cette 15e journée du top 14 entre Clermont et La Rochelle.
En football, Michael, Marseille s'est offert Lens et laisse Paris à la première place de la Ligue 1.
Oui, l'OM qui a frappé un grand coup à 15 jours du Classico en s'imposant sur les Lensois. 3 buts à 1. Tout a été très vite avec Guiri qui a ouvert le score à la 3e minute de jeu seulement avant que Nwaneri ne double la mise 10 minutes plus tard. Le break était fait en un quart d'heure de match contre les Sang et l'Or qui était pourtant leader du classement avant le début du week-end et qui laisse ainsi avec cette défaite le PSG seul aux commandes. Les autres résultats du jour pour le compte de cette 19e journée de Ligue 1 dans le derby breton. Lorient l'a emporté sur Rennes 2 buts à 0. Enfin, Monaco n'a pu faire mieux qu'un nul sur la pelouse du Havre 0 à 0. Les Monégasques sont désormais 10e du championnat de France. À suivre encore ce soir et demain, les rencontres Nantes-Nice, Brest-Toulouse, Paris-FC Angers, Metz-Lyon et enfin Lille-Strasbourg.
L'Euro de handball à présent et les Bleus qui remportent leur deuxième match dans le tour principal contre le Portugal.
Des tricolores qui étaient en démonstration, victoire 46 à 38 pour se relancer dans la course aux demi-finales. Après le match perdu contre le Danemark, les Bleus ont notamment battu à cette occasion le record de buts marqués sur une mi-temps dans l'histoire de l'Euro, 28 réalisations en première période. Les Français qui ont déjà rendez-vous dans deux jours avec l'Espagne.
Le rallye de Monte-Carlo, première étape du championnat du monde WRC. Oliver Solberg est toujours en tête du classement.
Oui, le Suédois sur Toyota qui mène la danse malgré une belle frayeur dans la 12e spéciale où il est parti à la faute. Il est donc toujours leader de cette première épreuve du calendrier. calendrier a déjà plus d'une minute d'avance sur ses coéquipiers de chez Toyota, le Gallois Elfyn Evans, deuxième, et le champion du monde français, Sébastien Ogier, troisième. À noter que sur la 13e et dernière spéciale de la journée qui conduisait les pilotes sur une partie du circuit de F1 à Monaco, c'est un autre Français, Adrien Formeau, qui a été le plus rapide. Il reste encore 4 spéciales à courir la nuit prochaine.
On passe au tennis, Mickaël, avec bien sûr la suite de l'Open d'Australie malgré la chaleur.
Eh oui, et Novak Djokovic, lui, est toujours en lice. Le Serbe a dominé hier soir le Néerlandais Van der Zandschulp en 3 manches, 6-3, 6-4, 7-6. L'ancien patron mondial de la petite balle jaune a surtout frôlé la disqualification sur un geste d'énervement. Il a failli tirer sur une ramasseuse de balles, un scénario qui lui était arrivé à l'US Open en 2020. Mais il est donc encore dans la course à 38 ans pour tenter d'aller chercher, pourquoi pas, un 25e sacre en Grand Chelem.
C'était un très bon début de tournoi, même si j'ai eu des challenges. L'an dernier, j'ai appris une leçon, je me suis et que c'était peut-être un petit peu trop tôt. Je me suis blessé. J'essaie toujours de donner des difficultés à ces jeunes joueurs. Je suis toujours là. Bien sûr, Alcaraz et Sinner sont les deux meilleurs joueurs du monde et jouent à un niveau différent de nous tous actuellement. Mais quand on entre sur le court et que là, on a une chance, tout simplement. Et notamment sur ce court qui m'a donné les plus belles expériences de ma carrière.
Et Novak Djokovic qui croit toujours donc en une 25e victoire en Grand Chelem. Aujourd'hui, place justement, comme le disait Djoko, à la jeunesse. On retrouvera pour les premiers huitièmes de finale l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial. Il fera face à l'Américain Tommy Paul dès 13h30. L'Allemand Alexander Zverev sera lui opposé à l'Argentin Fernando Cerundolo. Chez les dames, à suivre cet après-midi le match d'Arina Sabalenka contre la Canadienne Victoria Mboko, mais aussi la rencontre ce soir de l'Américaine Coco Gauff et de la Tchèque Karolina Muchova. Et puis l'Ukrainienne Elena Svitolina, la compagne de Gaël Monfils, sera opposée à la Russe Mira Andreeva en début de soirée sur la Rod Laver Arena.
Toujours en Australie, Mickaël, du cyclisme avec la dernière étape du Tour Down Under.
Et la cinquième et dernière journée de course qui a débuté dans la ville de Stirling, c'est la banlieue de Perth. 169 km au menu pour le peloton hier dans la chaleur du sud de l'île continent sur un parcours modifié, amputé notamment de la côte filale du Willunga. Le Britannique Ethan Irvine s'était imposé. La journée de samedi a surtout été marquée par l'abandon de Jonathan Narvaez, vainqueur en 2025, mais victime d'une chute et d'une possible commotion cérébrale. L'Équatorien était deuxième du général. Il laisse donc son coéquipier australien Jay Vine en seul leader de l'épreuve aujourd'hui, avec 1 minute 3 secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmidt et 1 minute 12 secondes d'avance sur un autre australien, Harry Sweeney. Grand verdict ce dimanche sur cette édition 2026 du Tour Down Under.
Un retour en Calédonie avec du tir à l'arc et les sélections pour les prochaines échéances régionales qui ont déjà débuté pour les meilleurs pratiquants.
Oui, plusieurs rendez-vous sont déjà dans la cible des archers avec à long terme les Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti. Les places se prennent dès maintenant avec ces tirs sélectifs organisés notamment ce dimanche matin à Dimbéa. Catherine Goujon est coach de l'équipe de Nouvelle-Calédonie.
C'est les tirs sélectifs pour les Océania qui ont lieu au mois d'avril. En fait, c'est des tirs sélectifs carrément pour les Jeux du Pacifique, mais la prochaine étape, là, c'est les Océania. On a commencé déjà depuis début 2025.
Dans quel état d'esprit sont tous les prétendants, surtout, à une sélection ?
Ah ben, ils sont au taquet, hein, forcément. Ils ont des places à prendre, donc ils sont au taquet. Pour l'instant, j'en ai beaucoup qui font les premiers minima, donc je suis assez satisfaite, en fait, des résultats.
Et pas de vacances donc pour les meilleurs archers et archers, à l'image de Jordan Lange du club de Dimbéa.
Alors les perfs, pour ma part, là, sont pas au rendez-vous, mais il faut pas lâcher, il faut garder le mental et il faut persévérer et être régulier dans ses entraînements. Alors moi, je suis en arc classique. Moi, personnellement, j'ai pas arrêté aussi pendant la période des fêtes, donc voilà, on sait les échéances et on sait ce qu'on a à faire, donc après, chacun est responsable.
11 archers qui étaient présents aujourd'hui avec des jolis tirs, vous l'avez entendu, hein, pour 5 clubs qui étaient représentés dans ce rendez-vous de sélection.
Merci Mickaël, il est midi et 24 minutes, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est pas grave, j'ai juste échappé mon stylo. C'est à 13h sur Radio Rythme Bleu. Passez un très bon dimanche.